Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Des gros, des petits, des civils, des militaires, des qui vont encore plus loin, des qui transportent encore plus de fret, de matériel ou de personnes, des avions mais aussi des hélicoptères, il y en a pour tous les goûts. Depuis ce matin, au traditionnel salon du Bourget, près de Paris, il faut dire que le secteur du transport aérien est en pleine explosion car le trafic augmente chaque année et il devrait continuer. Un développement qui inquiète ceux qui s'intéressent au climat car le secteur aérien contribue à l'émission de gaz à effet de serre et peu à peu, l'idée se développe de taxer, de réglementer, voire même d'interdire pour certaines distances. Faut-il limiter le transport aérien? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Jean-Pierre Masse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président des entreprises du voyage, qui est un syndicat professionnel du voyage et des tours opérateurs. Et Michel Dubromel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de France Nature Environnement. Il suffit d'aller sur un site internet de surveillance du trafic aérien pour s'en rendre compte. Ça a même un petit côté fascinant d'ailleurs. Il y a de plus en plus d'avions dans le ciel. Et donc, même si les constructeurs font des efforts, on va peut-être y revenir, surtout pour des raisons économiques, de plus en plus de pollution. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, Michel Dubromel ?
Je pense qu'il y a une alarme et une urgence à agir au niveau climatique. Donc, depuis à peu près un siècle, on peut dire que le transport aérien a explosé. Et les conditions que nous avons actuellement ne sont plus du tout les mêmes. Donc, les avantages fiscaux, les avantages donnés au transport aérien pour son développement il y a un siècle ne peuvent plus être valables aujourd'hui, alors que les alertes climatiques nous disent qu'il faut agir, non pas dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, mais agir dès maintenant. Et par exemple, regardez quand même que toutes les liaisons intérieures peuvent se faire très facilement en transport ferroviaire, qui est beaucoup moins polluant que le transport aérien.
Jean-Pierre Masse, ça vous inquiète, cette explosion du trafic, pour des raisons de pollution, de climat, de sécurité aussi peut-être pour...
Ce n'est pas l'explosion du trafic qui nous inquiète. Le trafic aérien va doubler dans les 20 ans à venir, il y aura en 2037... deux fois plus d'avions et deux fois plus de passagers qu'aujourd'hui, quoi qu'il advienne. Ça ne nous inquiète pas. Ce qui nous inquiète...
Ça, c'est un fait. De toute façon, c'est un fait. On ne pourra pas revenir là-dessus.
Hein. Non. Sauf à interdire l'avion, carrément, partout dans le monde. Ce qui va être un petit peu compliqué. Ce qui nous inquiète, en revanche, c'est la contribution du transport aérien au réchauffement climatique et le fait que les transporteurs aériens sont un petit peu réticents à prendre des dispositions pour avoir un transport aérien neutre en carbone.
Le transport aérien, alors justement, c'est 2%, 2 à 3% des émissions totales de gaz à effet de serre. Michel Dubromel, vous diriez que c'est peu, que c'est beaucoup, est-ce que c'est quelque chose sur quoi on peut travailler?
Alors, il y a une façon de donner avec des chiffres. Si on prend aussi d'une autre façon, on peut dire que c'est le 7e pays au niveau du globe émetteur de gaz à effet de serre.
C'est l'équivalent du 7e pays.
Septième pays. Non, mais ça, c'est aussi des éléments. Parce que
3%, si c'était un pays, le secteur serait le 7e pays.
Voilà, ça, parce que, bon, dire 3%, dire 10%, les chiffres, c'est un élément. Dire que c'est 7e pays, si on regardait les différents pays. Surtout, le point qui est important, c'est que on a un secteur qui ne paye aucune taxe sur le carburant. Et donc, il y aurait quand même au moins une équité. Et nous parlons d'équité, on ne parle pas du tout de concurrence ou de taxé, mais au moins une équité entre les modes qui n'est pas respectée actuellement. Donc actuellement, les personnes qui utilisent la route regardent passer des avions, elles payent leurs taxes actuellement, c'est un système actuel, et regardent des avions qui ne payent aucune taxe. Donc il y a quand même un problème d'inéquité, puisqu'il y a des impacts. Toute consommation de carburant facile a des impacts, et actuellement, on se rend compte qu'il y a une urgence. Donc ça a quand même au moins... logique de sensibiliser les utilisateurs du transport aérien. On n'est pas du tout en train d'interdire, au moins sensibiliser. Dites, vous prenez un transport qui a des impacts, comme le transport routier, comme le transport ferroviaire, mais un transport qui a des impacts et qui ne paye aucune de ces taxes à ce niveau-là. Je parle au niveau de l'impact CO2 notamment. Mais quand même pas oublier le bruit. On est en région parisienne. Beaucoup de personnes souffrent nuit et jour du bruit, même s'ils croient s'y habituer. C'est aussi un élément important au niveau des impacts.
Alors, on va prendre les... Oui, Jean-Pierre Masse, allez-y.
Oui, alors sur la question des taxes, non, le kérosène n'est pas taxé. C'est une disposition qui date de 1944, la Convention de Chicago, une autre époque, à l'époque à laquelle on ne se souciait pas du réchauffement climatique et où il fallait populariser le transport aérien.
On n'en avait même pas idée, à vrai dire.
Non, voilà. Pas du tout. et le transport aérien était balbutiant. Mais en revanche, le transport aérien est très taxé par ailleurs. Si vous prenez par exemple un Paris-Nice dont le prix est entre 100 et 150 euros, là les simples, il y a 50 euros de taxes et de redevances. Il n'y a pas d'autres moyens de transport qui subissent autant de taxes et de redevances, y compris la taxe Chirac destinée à l'aide aux pays en voie de développement. Il n'y a pas d'autres moyens de transport que le transport aérien.
Donc vous le disiez, le kérosène est dispensé de taxes au niveau mondial en fait, hein, par cette convention de Chicago. Pour revenir là-dessus, il faudrait un vote unanime de tous les membres de l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, ce qui rend donc la chose absolument impossible.
Non.
Allez-y,
Michel. Non, c'est pas du tout impossible. Un pays peut très bien taxer le kérosène. Alors, il y a la possibilité.
Une taxation généralisée, une révision de cette convention.
À un moment donné aussi, il faut pas dire qu'on attend que les autres fassent un effort. Nous pouvons aussi, chacun, faire un effort dans notre domaine. Donc, chaque pays européen peut décider ce type de taxation. Et chaque pays européen peut, en accord bilatéral avec un autre pays européen, proposer une taxation du kérosène. Mais on est toujours sur le principe, non pas de faire payer plus ou moins, que chacun qui utilise un carburant d'origine fossile paye son éco, paye une taxe carbone, pour qu'elle soit répercutée, surtout sur d'autres mesures permettant d'avoir des transports moins impactants sur l'environnement.
Vous voulez dire compenser
Faut arrêter la compensation, c'est un cache-sexe. Ça, c'est uniquement pour faire plaisir aux médias. L'essentiel, c'est de favoriser les transports qui ont moins d'impact sur l'environnement. Prenons quand même la comparaison sur un Paris-Toulouse ou un Paris-Marseille. Entre le train et l'avion, l'impact n'est pas du tout le même.
Jean-Pierre Masse.
Je reviendrai sur l'impact du train sur l'environnement. Si en France, il est faible en raison de l'énergie nucléaire, pour laquelle vous n'êtes pas très favorable, il me semble. Et en Allemagne, l'impact sur l'environnement du train, c'est de l'énergie, c'est du charbon qui permet de faire de l'électricité. Donc l'impact sur l'environnement n'est pas neutre. Je ne suis pas favorable, et il n'y aura pas d'accord des compagnies aériennes dans le cadre de IATA, de l'ensemble, pour une taxation du kérosène. Donc aujourd'hui, on ne peut taxer le kérosène que sur les vols domestiques, c'est-à-dire accroître encore la disparité entre les modes de transport. Je ne suis pas donc favorable, nous ne sommes pas favorables à une taxation du kérosène. En revanche, le transport aérien contribue à 3% de la production de CO2. Alors c'est beaucoup. Septième pays, c'est beaucoup moins qu'Internet, par exemple. Mais c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup moins que l'agriculture, mais c'est beaucoup. Il faut que le transport aérien absorbe le CO2 qu'il produit. Je ne parle pas des mécanismes de compensation, mais des mécanismes d'absorption. Si le transport aérien est neutre en matière de production de CO2, il n'y a pas de raison de taxer le transport aérien.
Il y a un projet de taxation européenne du transport aérien en ce moment, Michel Dubromel, qui n'est pas encore abouti, mais bon, c'est un projet qui existe. Vous en pensez quoi?
Je pense que le point le plus important, c'est de savoir, si on cherche à se déplacer, de choisir le mode de transport qui puisse avoir le minimum d'impact sur l'environnement. Le ferroviaire. L'efficacité du ferroviaire est quand même la meilleure efficacité. C'est le moindre impact. Donc d'abord, regardons les moyens permettant de financer. Le transport ferroviaire paye toutes ses externalités, ce qui n'est pas le cas du transport aérien. Donc c'est ça le point important. Et ce n'est pas uniquement de taxer, c'est de permettre de financer des modes de transport qui actuellement prennent en compte, je prends l'exemple du ferroviaire, toutes ses externalités, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a quelques taxes. Sachons raison garder, quelques taxes très faibles sur le transport aérien.
Jean-Pierre Masse.
C'est une bonne idée de vouloir financer le ferroviaire, le développement du ferroviaire en taxant le transport aérien, mais c'est une très fausse bonne idée. Ce n'est absolument pas envisageable. Le transport aérien doit devenir vertueux, ça on est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas par le biais d'une taxe qui veut être une taxe dissuasive. Pourquoi taxe-t-on le transport aérien? On taxe le transport aérien d'abord pour faire des recettes fiscales pour l'État, premièrement, et non pas les affecter à la compensation. C'est des recettes fiscales et on taxe le transport aérien surtout pour le rendre moins accessible. Il est moins accessible, il y a moins d'avions, donc il y a moins de production de CO2. C'est un système particulièrement inégalitaire, alors que l'on s'est battu pendant des années pour la démocratisation du transport aérien.
Oui, j'allais vous poser la question, Michel Dubromel. Quid du droit à se déplacer? Le transport aérien s'est démocratisé avec les compagnies low cost ces dernières années. Est-ce qu'il faut finalement le rendre un petit peu plus exclusif comme il l'était jadis?
Oui, mais c'est moi sourire quand même avec les compagnies low cost. On est en train de détourner tous les moyens de la fiscalité. Je ne parle pas des conditions sociales qui sont toujours extrêmement limites. Regardons pourquoi ces compagnies sont basées en Irlande ou dans d'autres territoires. Donc on est en train d'utiliser des biais de détourner la fiscalité, y compris les avantages sociaux, pour avoir des tarifs d'appel qui en fait incite à plus de déplacements, donc plus de pollution. Donc, c'est quand même assez inquiétant de chercher des biais uniquement en utilisant des disparités sociales pour accélérer le déplacement, qui n'est pas nécessaire. En fait, c'est par des prix d'appel qu'on incite les gens à se déplacer. Revenons à des choses quand même plus sérieuses. J'ai envie de me déplacer pour aller d'un point A à un point B, je dois en payer l'impact. Ce n'est pas le cas avec les compagnies low cost.
Ces derniers jours, des députés, notamment de la France Insoumise, ont proposé d'interdire l'avion pour les trajets qui peuvent être faits en train jusqu'à 2h30. Est-ce que ça vous paraît une piste à étudier, Jean-Pierre Masse, ou est-ce que c'est peut-être un petit peu dur ?
Déjà, la taxation du kérosène, pour rendre moins accessible le transport aérien, c'est de l'écologie punitive. L'interdiction du transport aérien pour les vols de moins de 5 heures, disons, pour les trajets de moins de 5 heures par un autre moyen de transport, c'est ce que j'appelle l'écologie stalinienne. Ce n'est pas envisageable. On est dans un régime, dans un système démocratique où chaque individu a le choix de se déplacer, de choisir son moyen de transport. Ensuite, qu'il y ait des démarches personnelles ou des démarches sociétales pour favoriser un autre moyen de transport ce qu'on peut, ça c'est normal. C'est normal, c'est ce que l'on a vécu, que l'on vit en Suède depuis 2 ans maintenant et qui se traduit par une baisse de la fréquentation du transport aérien domestique en Suède de 6% et international de 2%. Mais interdire l'avion, c'est pas crédible.
Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Dubromel? Façon de dire, bon, pour un Paris-Marseille, on interdit l'avion. Parce qu'il y a Pascal TGV qui va jusqu'à la gare Saint-Charles.
Moi, je ne suis pas du tout dans le domaine de l'écologie punitive, qui est toujours l'argument facile. C'est curieux parce que tous, nous, les gens qui utilisons des moyens de transport routiers, on considère comme logique de payer une taxe sur les carburants. Et là, d'un seul coup, parce que c'est une taxe sur le kérosène, on la considère comme punitive. Donc il faudrait savoir raison garder quand même et respecter un petit peu l'impact sur l'environnement. Quand on se déplace, quand je me déplace avec ma voiture, que j'ai un impact, je paye ceci sous la forme d'une taxe sur les carburants. Je pense qu'il serait quand même la même chose qu'un mode aérien paye une taxe sur les carburants. Il faut au moins regarder un peu plus loin que l'avantage immédiat qu'on a en payant 20 euros pour faire un aller-retour à Milan.
Oui, mais sur une éventuelle interdiction de l'avion. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une voie à étudier pour vous, Michel Dubromel ?
Oui, il faut quand même qu'on se rende compte à un moment donné que la transition ne va pas se faire tout doucement en disant il faudrait faire un petit effort, ceci, cela. Prenons toutes les liaisons métropolitaines. Toutes les liaisons métropolitaines, allez, depuis Paris, puisqu'on est un état centralisateur, Marseille, Toulouse et Lille, il y a exactement concurrence entre l'avion et le train. Alors, regardons quand même ces éléments-là. D'un côté, on ne peut pas dire qu'on a fait un investissement sur des grandes lignes à grande vitesse et favoriser, parce qu'en fait, chaque année, l'État donne 800 millions de taxes fiscales qui ne sont pas perçues sur la partie aérienne. Donc, il n'y a pas égalité de traitement entre les deux modes de transport.
Jean-Pierre Masse.
Ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. Faire un Paris-Perpignan, ça peut se faire en train. Ça dure 5 heures. Pour faire l'aller-retour dans la journée, il faut quand même consacrer très peu de temps pour rester à Perpignan ou rester à Paris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous ne sommes pas très éloignés. Même si je suis opposé à toute idée de taxation du kérosène, la proposition que l'on fait, c'est que le transport aérien, qui fait déjà beaucoup d'économies en matière de production de CO2 et en matière de consommation de kérosène, en fonction de la durée des vols, soit contraint d'absorber le CO2 qu'il produit. Voilà, il faut qu'on ait un transport aérien qui soit neutre en matière de carbone. Et c'est possible.
Donner l'exclusivité du transport au train, donc ça vous paraît possible, vous le disiez, Michel Dubromel. Est-ce que c'est bon pour la concurrence et donc les prix, s'il n'y a pas de concurrence sur un mode de transport?
Pour l'instant, il y a quand même une concurrence déloyale, où d'un côté, on fait un cadeau de 800 millions à un mode de transport. Non, mais c'est le cas, monsieur.
Mais
c'est les chiffres de la Cour des comptes, c'est pas moi qui les invente. Bon. L'autre élément aussi, c'est la bougeotte. Pourquoi faut-il faire un aller-retour Paris-Toulouse dans la journée ou Paris-Marseille? Il y a quand même du téléphone. Nous sommes capables de nous réunir, monsieur. Je suis désolé, mais faire des réunions téléphoniques, ça existe. Je sais qu'il y a un impact carbone sur Internet, mais enfin, il y a une idée de bougeotte. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un transport qui est sous-tarifé, donc ça donne la bougeotte. Donc on a envie de traverser, évidemment, d'aller faire un aller-retour Marseille ou Perpignan dans la journée. Oui, c'est important que les gens puissent avoir un droit à la mobilité, mais il faut que les gens aient les mêmes accès à toutes les modes, et c'est pas le cas actuellement.
Jean-Pierre Mas, réaction.
C'est pas concevable. C'est pas concevable de réduire la capacité des gens de se déplacer. Nos enfants, les jeunes qui sont nés à partir de 1970, 1980, sont issus de la culture Erasmus.
Je vous remercie pour les jeunes. Continuez, pardon.
On peut rester jeune d'esprit très longtemps. Ouais, ouais. Hein. Donc vous êtes des enfants, vous êtes des enfants d'Erasmus. Que leur a-t-on appris? Que leur terrain de jeu, que leur territoire, c'était le monde. Et le fait que l'on ait appris cela, ça a été un facteur essentiel de développement de la paix dans le monde. Aujourd'hui, on est en train de dire à cette génération Erasmus, eh ben non, repliez-vous sur vous-même, restez chez vous, ne sortez pas, n'allez voir ce qui se passe ailleurs, n'allez pas échanger, n'allez pas voir d'autres cultures. Voilà, la tendance à ce repli, cette tendance à la décroissance, au repli sur soi, nous ne la partageons pas.
Mais quand même, je peux vous rassurer, beaucoup d'étudiants Erasmus, puisque mes petits-enfants sont dans ce domaine-là, n'ont pas besoin de prendre l'avion, ils savent très bien se déplacer par d'autres moyens. Et je crois que là, nous aussi, nous sommes d'une autre génération où nous considérons que nous avons besoin d'un moyen de transport. Nos enfants et petits-enfants se déplacent sans avoir besoin de polluer la planète. Ils savent très bien faire du covoiturage, monsieur, traverser aussi l'Europe en d'autres moyens. Mais Erasmus, on peut traverser l'Europe sans faire des navettes chaque jour.
Comment produisez-vous l'énergie qui fait fonctionner les trains?
Mais monsieur, je connais très bien votre théorie. Vous allez me dire qu'on a le nucléaire en France. Pourquoi on a du nucléaire en France? C'est parce qu'il y a EDF qui a empêché tout débat. On peut aussi avoir d'autres énergies et qui sont beaucoup moins
passées du train à vapeur. Le débat ne porte pas sur la production d'électricité en France, mais sur le transport aérien. Les efforts faits par les constructeurs en termes de consommation de kérosène, est-ce qu'ils sont suffisants, Jean-Pierre Mas? Parce qu'on sait qu'il y a des avions qui sortent, on nous dit, ça va consommer 30% de kérosène en moins par passager.
Ils sont extrêmement sensibles. S'il n'y avait pas eu d'efforts faits à la matière, il n'y a pas que l'économie de kérosène. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Mais s'il n'y avait pas eu d'efforts faits à la matière, aujourd'hui, on ne serait pas à 2 ou 3% de la participation de la production de CO2, mais on serait autour de 8%. Actuellement, il y a un Airbus A320 qui consomme 2 litres de kérosène aux 100 km par passager transporté. C'est-à-dire la même chose qu'une voiture.
Les efforts vous paraissent insuffisants, Michel Dubreuil?
On est toujours dans le domaine des efforts à la marge, c'est-à-dire qu'on est en train, et vous l'avez dit, et nous confirmons bien des efforts de l'ordre de 10 à 20%, on est toujours en train de s'arranger à la marge, alors que les urgences climatiques sont devant nous, et c'est pas moi qui le décide. Demanderont des changements brutaux. Et on parlait aussi de carburants hybrides et autres qui vont venir d'ici 20 ou 30 ans. Les actions qui doivent être prises, faut pas attendre 20 ans ou 30 ans. On sait que si le tournant n'est pas pris avant 2030, nous allons vraiment dans le mur.
Oui, Jean-Pierre Mas, justement, les technologies alternatives, crédibles, alternatives au kérosène, il y en a à quelle échéance?
Si on parle de l'échéance électrique, elle n'est pas à court terme, elle est à moyen terme et même certainement au-delà de 2050 pour les gros avions, pour les petits avions dans 10-15 ans. Mais ça ne résoudra pas le problème globalement du transport aérien. Le transport aérien va continuer à fonctionner avec du kérosène, éventuellement avec du kérosène hybride, de toute manière avec du kérosène. Et il est nécessaire qu'il absorbe la production de CO2 qu'il produit.
Michel Dubreuil, des technologies alternatives ou alors carrément, comme vous le disiez, arrêter le transport aérien.
Oui, nous suivons très bien le développement des technologies alternatives. Nous saluons les efforts qui sont faits parce que manifestement, les constructeurs se sont rendus compte qu'il y avait besoin de faire des améliorations. Mais les transitions qui sont à faire sont des transitions qui vont demander des changements de comportement. Alors, si nous avons gardé l'habitude de le transport individuel, il y a d'autres modes de transport qui sont beaucoup moins impactant pour la planète.
Merci Michel Dubreuil, merci à vous Jean-Pierre Mas d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Arnold Assoa et le retour de Florence Ponce à la coordination, Léo Gâteau à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.